Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Jean-Louis Chambon.
Chers amis de France et du bout du monde, bonjour, heureux de vous retrouver sur l'antenne de Canal Academy à l'Institut de France pour un nouveau Au fil des pages qui nous donne le plaisir de recevoir Christian Saint-Étienne qui vient de faire paraître aux éditions François Bourin une nouvelle édition de son ouvrage de 2009, La fin de l'euro, qui a été d'ailleurs salué par une nomination au prix Turgot et qui, en son temps, lorsqu'il était sorti donc en 2009, avait fait beaucoup de bruit, dirons-nous. Bonjour donc Christian Saint-Étienne.
Bonjour.
Nous sommes très heureux de vous retrouver ici sur notre Merci. Antenne. Alors vous êtes maintenant un récidiviste, vous recommencez. Alors ceci mérite une explication que vous allez nous donner. Simplement, je rappelle à nos auditeurs que, d'ailleurs nous avions commenté sur cette antenne la sortie de votre ouvrage avec vous-même, et qu'à cette époque, vous aviez non seulement suscité la surprise, mais ceci on en a un petit peu l'habitude parce que vous avez pour habitude de dire des choses d'une façon extrêmement directe et claire. Et deuxièmement, parce que vous êtes aussi un Européen convaincu, ça personne n'en doute. Mais vous avez suscité à ce moment-là l'incrédulité, voire la réprobation. Beaucoup considéré, sans doute par un peu de peur, peut-être aussi par aveuglement, que c'était un sujet qui était politiquement incorrect, voire tabou. Cela étant, 2 ans plus tard, il faut bien reconnaître que, à travers les crises que nous venons de connaître en Europe, votre ouvrage avait des allures prémonitoires. Alors, cette nouvelle parution, Christian, c'est peut-être aussi pour préciser votre position de l'époque. Alors, je rappelle que la fin de l'euro n'a pas de point d'interrogation, ce qui peut susciter une précision.
Oui, moi, en tant qu'Européen convaincu, je suis favorable à des États-Unis d'Europe, mais en tant qu'universitaire, j'observe que l'euro est en grande difficulté. Si vous voulez, qu'est-ce qui se passe? Très brièvement, la zone euro n'est pas une zone monétaire optimale au sens de la théorie économique, c'est-à-dire qu'elle n'a pas la mobilité des travailleurs, la mobilité des capitaux qui permettrait d'avoir une zone intégrée. Il n'y a pas non plus les conditions optimales en termes de commerce intérieur. Les États-Unis d'Amérique, d'une certaine façon, ne sont pas non plus une zone monétaire optimale. Ils le sont plus que la zone euro actuelle, mais ils ne le sont pas parfaitement non plus. Simplement, les États-Unis, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont un gouvernement fédéral, un budget fédéral, et ils ont une certaine harmonisation fiscale et sociale. Il y a d'abord un droit national aux États-Unis, même s'il y a des petites variantes par État, l'essentiel est fédéral et national. Et puis, c'est la même chose pour la fiscalité. Vous avez une sécurité sociale, un Medicare, qui sont pour l'ensemble des 50 États américains. Et vous avez un impôt sur le revenu qui est commun aux 50 États. Ce n'est absolument pas le cas en Europe. Nous n'avons ni gouvernement fédéral, ni budget fédéral, ni harmonisation fiscale et sociale. Mais à l'inverse même, nous avons une concurrence fiscale et sociale extrêmement brutale avec, par exemple, des choses hallucinantes comme la situation de l'Irlande qui a été aidée par un prêt de 80 milliards d'euros de l'Union européenne, alors que ce pays a un taux d'impôt sur les sociétés de combat qui est à 12,5%, qui est moins de la moitié de celui de l'Europe continentale et qui vise à attirer sur son territoire des entreprises venant de l'Europe continentale. Donc, dans ces conditions-là, eh bien, on se retrouve dans une situation d'autant plus difficile que depuis 12 ans qu'existe l'euro, on a une divergence des performances de plus en plus forte. Et en fait, pour bien comprendre les problèmes de la zone euro, il faut voir que nous avons aujourd'hui 2 sous-zones euro. Si je laisse de côté les 3 pays en difficulté, que sont l'Irlande, le Portugal et la Grèce, je dis aux auditeurs, concentrez-vous sur 3 pays de l'Europe du Nord, qui sont l'Allemagne, les Pays-Bas et l'Autriche, d'un côté, et 3 pays de la zone sud, que sont la France, l'Italie et l'Espagne. Bon, ben vous avez, entre ces 2 blocs de pays, 2 modèles complètement différents. L'Allemagne et les 2 autres pays ont choisi un modèle industriel exportateur qui réussit parfaitement et qui conduit à des excédents de balance courante de 4-5 points de PIB par an. Les 3 pays du sud ont choisi un modèle de loisirs et de consommation qui produit des déficits de balance courante de 3-4 points de PIB. On n'est pas là pour critiquer, chacun choisit le modèle qu'il veut. Simplement, ce que je dis dans ce livre, c'est qu'on ne peut pas atteler ces 2 bœufs avec le même joug. Et l'euro, si c'est un joug commun avec des bœufs qui ont des aspirations totalement différentes, aura pour effet de casser le coût du plus faible. Et donc, je dis que ce n'est pas durable et que c'est même extrêmement dangereux.
Alors, ce que vous soulignez, c'est donc qu'il y a le grand mal européen, c'est une divergence de modèles, c'est ce que vous venez de dire, entre le Nord et le Sud, enfin les pays représentatifs, et puis l'absence de gouvernement économique. Et alors, à travers les crises qu'on vient de connaître, que vous avez rappelées, la question c'est quels sont les scénarios de sortie de crise. Alors vous en passez trois principaux en revue, de l'apocalypse par l'éclatement de la zone à une sorte de divine surprise que j'imagine que vous appelez de vos voeux, c'est-à-dire un fédéralisme surprise. Alors, peut-être vous pourrez revenir sur ces... Et puis avec des scénarios un petit peu intermédiaires. Enfin, c'est absolument passionnant. Ouais.
Alors, le plus probable actuellement, c'est quoi ? À quoi insiste-t-on ? D'abord, on a appris au cours des deux dernières années que les principaux protagonistes, notamment l'Allemagne, ne voulaient pas d'un gouvernement économique, ne veulent pas d'un budget fédéral, ne veulent pas d'une harmonisation fiscale et sociale. Donc, déjà, on sait qu'on n'est pas une zone monétaire optimale. Et ce qu'on a appris par rapport à la version que j'avais écrite il y a deux ans, c'est que les trois conditions qui permettraient, en dépit du fait qu'on n'est pas une zone monétaire optimale, de durer, qui sont le gouvernement économique, le budget fédéral et l'intégration fiscale, notamment, ces trois conditions ne seront jamais réunies. Donc, dans ces conditions-là, qu'est-ce qui se met en place ? C'est une gouvernance punitive et en même temps suicidaire. Pourquoi ? Puisqu'on demande aux pays, ce que l'Allemagne fait, c'est de dire aux pays du Sud, faites comme moi, adoptez mon modèle industriel exportateur. L'Allemagne, en ce faisant, fait deux erreurs. La première, c'est que si jamais les pays du Sud réussissaient à adopter un modèle industriel exportateur, elle-même, elle exporterait où ? Puisque son principal marché, c'est justement la France, l'Italie et l'Espagne. Donc, elle se tire une balle dans le pied. Alors, on peut d'ailleurs supposer qu'elle leur demande de faire ça en se disant qu'ils n'y arriveront jamais. Et la deuxième raison qui fait douter de cette stratégie, c'est qu'une fois encore, imaginons que ça réussisse, eh bien, ça veut dire que l'ensemble de la zone euro deviendrait exportatrice très fortement. Et donc, qu'est-ce qui se passe au plan mondial ? Si l'Asie est exportatrice et l'Europe devient exportatrice, est-ce que les États-Unis doivent être le consommateur mondial sans limite, alors qu'ils doivent eux aussi contrôler leur endettement ? Donc, on voit bien que l'évolution actuelle est extrêmement dangereuse. Alors, à quoi tout ceci peut conduire ? Ce que je crains, c'est que dans 2 ou 3 ans de ce régime, on assiste dans les pays du Sud à un épuisement démocratique qui conduise un peu comme on le voit avec certains mouvements en Grèce, que, notamment en France, qui est quand même un pays éruptif. Le jour où on va nous appliquer ce type de régime, s'il y a une attaque sur la dette extérieure de la France, on imagine le pays, dans un premier temps, avec des grèves violentes, éventuellement à feu et à sang. Donc, on voit bien que ce n'est pas durable. Donc, qu'est-ce qui pourrait se passer au bout d'un certain temps ? Comme vous l'évoquiez, il y a le scénario apocalyptique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une explosion de la zone. De ce point de vue, d'ailleurs, il est essentiel de rappeler aux auditeurs, d'autant plus qu'on entend toutes sortes de prises de position actuellement, un pays faible ne peut pas sortir de la zone euro. C'est un piège mortel de ce point de vue-là, parce que si vous sortez, vous dévaluez votre monnaie et donc votre dette extérieure est réévaluée d'autant, ce qui vous écrase. Bon. Donc, les pays faibles ne peuvent pas sortir. Ce qui serait probable à ce moment-là, c'est que, notamment s'il devait y avoir une attaque simultanée sur l'Espagne, l'Italie et la France, à ce moment-là, on se retournerait vers l'Allemagne et on lui demanderait des sommes sans commune mesure à ce qu'on lui a demandé jusqu'ici pour l'Irlande ou pour la Grèce, vraisemblablement entre 2000 et 2500 milliards d'euros. Et à ce moment-là, l'Allemagne pourrait choisir de sortir, puisque ce qu'elle pourrait subir, c'est une réévaluation de l'ordre de 20% de sa monnaie, ce qu'elle peut parfaitement encaisser. Et d'ailleurs, ça ne serait pas forcément mauvais si, en contrepartie, dans la zone sud, on arrivait à mettre en œuvre une restructuration budgétaire qui serait rendue plus facile par la dévaluation. Et à ce moment-là, si l'Europe du Sud repartait, eh bien, ça serait les marchés qui se réouvriraient pour l'Allemagne. Donc ça, c'est malheureusement ce vers quoi on tend le plus probablement. Mais effectivement, comme je suis un Européen convaincu, ben je continue de proposer un autre scénario qui aujourd'hui a l'air complètement rêveur, mais qui n'est pas totalement exclu, j'en dirai juste un mot. C'est celui de ce que j'appelle la fédéralisation surprise. C'est-à-dire qu'on a dit tout à l'heure, comme aux États-Unis, on crée au sein de la zone euro des éléments de fédération, même si on ne va pas complètement jusqu'au bout du modèle d'États-Unis d'Europe. Alors, le point fondamental, surtout pour nos éditeurs dont beaucoup sont à l'étranger, c'est que ça ne serait pas forcément à 17. On pourrait parfaitement avoir une fédéralisation surprise centrée sur la France, l'Allemagne, le Benelux, qui vraisemblablement, du point de vue notamment des intérêts de la France, devrait inclure l'Italie et l'Espagne. Mais on pourrait s'arrêter là. Et donc, notamment, les pays en difficulté aujourd'hui ne feraient pas partie du premier wagon, ce qui leur permettrait d'avoir une monnaie qui chuterait très fortement. Et à ce moment-là, ça leur permettrait de régler leurs problèmes, quitte à revenir plus tard en faisant une nouvelle conversion de monnaie. Et puis, vous auriez, et c'est ça le point clé, alors je fais rêver simplement nos auditeurs, si vous aviez une fédération à 9 ou 10 centrée sur France, Allemagne, Benelux, Italie, Espagne, vous avez ipso facto la deuxième puissance économique du monde. Et un changement énorme sur le plan des équilibres stratégiques mondiaux. Alors, on peut en rêver. Il y a quand même un moment où les Allemands vont devoir prendre conscience qu'ils sont sur un fil très fragile, parce que leur modèle économique est totalement exportateur. Rien ne dit qu'on va aller vers un monde globalement ouvert. Et deux, ils ont quand même une fragilité démographique énorme. Donc, une Allemagne qui se fondrait avec la France, qui, elle, est en boom démographique relatif, ça fait énormément sens à l'horizon 2030-2040.
Ouais. Ce que vous dites, donc, c'est qu'aucun Européen ne pourra gagner tout seul.
Mais c'est exactement ça. C'est ouais. Exactement. Et or, ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'aujourd'hui, au sein de la zone euro, on assiste au bal des égoïsmes. Et c'est ça qui m'inquiète énormément. Et donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de point d'interrogation sur la fin de l'euro. Alors, ça ne veut pas dire que c'est la fin de l'Europe. Imaginons d'ailleurs un scénario d'éclatement où l'Allemagne sort et la France reste dans la zone sud. La France, surtout si elle règle un peu mieux ses affaires, pourrait devenir l'Allemagne de la zone sud. Elle imposait à l'ensemble de la zone sud une politique beaucoup plus stricte et donc permettre à ce moment-là, dans la reconstitution d'un axe franco-allemand fort, une nouvelle refondation de l'Europe. Donc le pire n'est jamais sûr, même dans un scénario qui serait difficile, mais à condition que ça se fasse dans le cadre d'un éclatement négocié. Mais plutôt que ça, encore une fois, moi, je préférerais une fédéralisation surprise à périmètre réduit.
D'accord. Alors, juste un dernier mot sur la France. Je vous lis donc en page 142 de votre ouvrage. Il apparaît clairement que la France doit choisir rapidement entre un modèle de développement économique fondé sur la préférence française pour les loisirs et son appartenance à une zone euro dans laquelle la préférence allemande pour l'industrie est devenue l'axe central de discipline de la zone. Le choix est clair, soit les loisirs et la dépense publique à crédit, soit l'euro et le modèle de croissance stratégique, mais nous n'aurons pas durablement les deux. Et face à cette option, il convient d'ajouter, ne pas choisir, c'est mourir. C'est un peu dur.
Écoutez, je pense que l'économie française est en grande difficulté. Il faut rappeler que nous avons perdu un tiers de nos parts de marché à l'export entre 1999 et 2010. Donc, c'est l'équivalent d'une défaite stratégique majeure. Nous perdons même des parts de marché dans l'agriculture. Nous avons des difficultés même dans l'exportation de services. Donc, nous avons un taux de croissance extrêmement médiocre depuis 10 ans, à peine plus d'1%. Donc, du coup, d'ailleurs, la chose la plus insupportable, c'est que nous n'avons même pas les bénéfices de notre fort dynamisme démographique. Et ce qu'on peut craindre, c'est que si ça continue comme ça indéfiniment, on pourrait être le pays naisseur où les gens naîtraient et feraient des études, et puis ensuite ils partiraient travailler en Allemagne, ce qui ferait triple perte pour la France. Donc, il faut vraiment se réveiller avant de se retrouver dans un corner insupportable.
Voilà, alors c'était les convictions de Christian Saint-Étienne, un Européen fédéraliste convaincu, inquiet, mais pas désespéré, ce qu'il reprend dans sa conclusion. Quelle est la probabilité que la France adopte à bref délai un tel modèle de croissance stratégique ? Je laisse chaque lecteur donner sa réponse et déterminer ainsi le degré de pérennité de la zone euro. Nous ne sommes pas complètement rassurés. Merci à vous, Christian.
Merci.